Hey Mimi, viens avec moi, je t'emmène dans le jardin. On va écouter les premiers oiseaux du printemps.
Mais dans 30 minutes, ils seront encore là les oiseaux. Par contre, la GT du local, ça sera terminé.
Il y a ces endroits qu'on connaît bien et qu'on aime. On les aime parfois comme un vieux copain qu'on ne serait pas allé voir depuis longtemps, dont on ne pourrait pourtant pas se passer et à qui on oublie de demander, au fait, comment tu vas? Qu'est-ce que tu deviens? Eh bien, vous savez quoi? Notre vieux copain, aujourd'hui, c'est le refuge de l'Arche dans cette émission et on est très contente de recevoir son directeur, Jean-Marie Mulon, puisque cette année, le refuge fête ses 50 ans et on s'est dit qu'il était grand temps de prendre des nouvelles de cet espace incontournable de notre département et de revenir ensemble sur son histoire. En milieu d'émission, c'est l'actu en bref et un point sur la météo avec toi, Lucie. Bonjour, Lucie.
Bonjour.
Et d'ailleurs, on continue avec toi ensuite, puisque nous resterons à Château-Gontier sous le soleil dominical du mois de mai, puisque pour la 22e année, la ville de Château-Gontier-sur-Mayenne, en partenariat avec l'association La Verdine, propose une série de concerts gratuits et en plein air au kiosque à musique Promenade de la Résistance tout au long du mois de mai. Des instants de bonheur grand public qui vous changent un dimanche. Lucie, ce sera avec toi. Donc en seconde partie d'émission. On termine bien sûr avec Donatien qui, pour terminer, nous emmène sur les chemins de l'Astarac. Surprenant ? Bon, vous verrez, il faut rester avec nous jusqu'au bout. Mais pour commencer, je vous le disais, nous sommes dans le sud Mayenne et notre invité d'aujourd'hui ne vous est sans doute pas inconnu. Bonjour Jean-Marie Mulon, vous êtes le directeur du Refuge de l'Arche depuis 2022. Et alors on peut le dire, le Refuge de l'Arche, vous le connaissez bien puisque ça fait plus de 40 ans que vous le suivez.
Bonjour à tous, bonjour à toutes. C'est vrai que ce lieu, j'ai le plaisir d'en être le directeur depuis 2022, c'est vrai. Mais j'ai commencé à me passionner pour ce lieu dans les années 80. Et où que je sois dans l'Ouest ou ailleurs, j'ai essayé à chaque fois que je le pouvais d'être présent sur les grands événements qui ont pu marquer la vie du refuge. Alors le fait de fêter aujourd'hui les 50 ans, ben, ça nous renvoie à tellement de souvenirs. Et je dis souvent que ce lieu, c'est d'abord une équipe, bien évidemment, c'est d'abord une grande famille de pensionnaires, puisqu'on a plus de 1000 pensionnaires ici, et c'est surtout un lieu qui a été extrêmement visionnaire en posant les vraies et bonnes questions sur l'environnement, sur la biodiversité, il y a 50 ans. Et il y a 50 ans, ce n'était pas du tout à la mode d'aller s'intéresser aux champs des petits oiseaux, aux espèces qui allaient éventuellement disparaître. Et Christian Hugedé et l'ensemble des personnes ayant suivi cette aventure avaient vu juste avec 50 ans d'avance sur les débats qu'on a aujourd'hui en 2024.
Et alors justement, si on revient 50 ans en arrière, au tout début, comment ça a commencé ?
Alors, notre fondateur, Christian Hugedé, a pour habitude de raconter cette histoire qui finalement se déroule en 1968. Il est entraîneur du club d'aviron ici à Château-Gontier. Et sur la rivière, la Mayenne, des jeunes trouvent ce qu'ils pensent au départ être un canard, mais qui finalement est un cormoran. Et Christian Hugedé, qui avait une connaissance du monde des oiseaux et des animaux en général, et une amitié réelle avec Jacques Bouillot, qui était le créateur du zoo de la Flèche, eh bien, il les emmène là-bas, les jeunes, et puis le cormoran n'a pas survécu malheureusement, mais il est opéré, et on se rend compte que ce sont des plombs de chasse. Et là, les jeunes se disent, mais c'est pas possible, les gens font n'importe quoi, on tire sur des oiseaux. Et je dis souvent, je l'ai dit dans un ouvrage consacré au refuge de l'Arche, ce chasseur était sans doute loin d'imaginer, en appuyant sur sa gâchette, le bien qu'il ferait à la protection animale, le mal qu'il avait fait à cet animal, mais tout ce qui allait après en découler, puisque 1968, c'est la création d'une des branches en France, ici, du Club Chouette. Et puis 1974, le 5 mars précisément, c'est la pose de la première pierre de ce refuge qui, au départ, ne faisait qu'un hectare. C'était assez modeste par rapport à aujourd'hui.
Justement, au fur et à mesure des années, le refuge a grandi. Initialement, ça a été porté par des bénévoles, c'est bien ça ?
Alors les bénévoles ont été la pierre angulaire de cette aventure parce que effectivement si en 1974 le lieu faisait 1 hectare, 10 ans après il est passé à 9 hectares, puis à 14 hectares, et aujourd'hui nous sommes à 23 hectares. Alors la dynamique bénévole, forcément les gens ont grandi, ont quitté la ville pour aller vers des études ou vers leur métier, et puis à un moment il a été nécessaire de professionnaliser, parce que en étant le premier site touristique du département de la Mayenne, hors site religieux, comme il est souvent expliqué, il fallait des professionnels, à la fois évidemment dans le soin des animaux, dans l'entretien. C'est une j'ai pour habitude de dire qu'ici c'est une grande ferme. On est là 7 jours sur 7. Il n'y a jamais de temps mort. Il n'y a jamais une seule journée qui va ressembler aux autres. Donc aujourd'hui, il y a moins de bénévoles, il y a plus de professionnels, mais on sait ce que l'on doit à ces femmes et à ces hommes, jeunes d'ailleurs, c'était une toute autre époque, hein, il y a 50 ans. On pouvait faire grimper des garçons et des filles sur des tôles à 15 mètres de hauteur, ça n'impressionnait personne. Aujourd'hui, on ne pourrait plus le faire. Mais on leur doit beaucoup parce qu'il y a encore dans ce parc des endroits où on retrouve cette patte de l'histoire. Et ça a été essentiel. Sans les bénévoles, sans la folie, au bon sens du terme, de la famille Hugedé, qui a consacré sa vie à cet endroit, on n'aurait pas aujourd'hui ce lieu qui, il faut le rappeler, est le premier sanctuaire pour animaux exotiques à avoir ouvert ses portes en Europe.
Vous parlez de professionnalisation. Aujourd'hui, l'équipe salariée comporte combien de personnes ?
Alors, ce qu'il est important de préciser lorsqu'on aborde effectivement les professionnels, c'est la présence de notre chantier d'insertion, parce que là encore, nous avons coutume de dire que quand nous tendons la patte aux animaux blessés, cabossés par la vie et par les humains, eh bien, nous tendons aussi la main aux femmes et aux hommes qui ont pu être laissés sur le bord du chemin pour mille et une raisons réunies. Donc, ce chantier d'insertion comprend 12 personnes en équivalent temps plein, mais nous avons une capacité d'accueil de 19 personnes. Et puis, par ailleurs, mais dans la même équipe, hein, moi j'ai toujours pour habitude de dire que tout ça est une grande famille, nous avons également une vingtaine de salariés permanents, parce que comme je l'expliquais, et parfois ça peut surprendre quand on entend ce chiffre, mais nous sommes là 7 jours sur 7 au service de nos pensionnaires. Et dans tous les domaines, parce qu'on connaît le soin apporté aux animaux, mais il y a toute l'équipe technique, il y a l'équipe administrative qui, elle, est assez modeste parce qu'on préfère que l'effort soit porté sur le terrain. Et puis, il y a notre vétérinaire. Enfin, voilà, on a vraiment un dispositif complet pour pouvoir accueillir les animaux, parfois dans un sale état, et essayer de leur redonner au moins une quiétude et une paix pour terminer leur jour. Nous n'avons pas que des animaux vieillissants ici, mais ça peut nous arriver.
Et alors, 1000 animaux sont accueillis ici, vous nous le disiez.
Un millier de pensionnaires qui représentent 120 espèces, donc c'est une belle et grande famille, comme on le dit. On voit bien à quel point d'ailleurs l'animal a besoin de ce type de lieu, puisque contrairement aux parcs zoologiques, qui pour certains ont fait de grands efforts, qu'il faut souligner, nous, on le dit d'ailleurs à nos visiteurs, lorsqu'on vient au refuge de l'Arche, et je reparlerai tout à l'heure de l'importance des visiteurs, on accomplit un geste solidaire. Un geste solidaire, évidemment, avec l'environnement, avec la nature. On aide ce lieu à vivre, hein, très, très clairement. Mais il faut savoir que parfois, ici, l'animal peut s'extraire du regard du visiteur parce qu'il est fatigué, parce qu'il fait chaud, parce qu'il fait froid. Dans un zoo, très souvent, les portes sont fermées une fois que les animaux sont sortis de leur loge et ils sont, entre guillemets, condamnés à rester dehors parce qu'il faut qu'ils soient vus du public. Donc c'est vrai que c'est une démarche différente lorsque l'on vient dans un refuge, mais c'est extrêmement important de respecter cette quiétude, de retrouver un rapport au temps qui est important aussi lorsqu'on visite, parce qu'il faut parfois être patient, chercher, regarder, observer. Souvent ça fonctionne, on finit par voir l'animal, mais parfois il n'a pas décidé de se montrer parce qu'il est caché derrière des rochers, derrière des branches, mais c'est comme ça, ça fait partie de la vie la plus naturelle que l'on peut proposer en reconstitution malgré la captivité.
Chaque animal a son histoire et à leur arrivée, il y a tout un temps d'adaptation nécessaire pour faire lien avec ses congénères. C'est tout un travail à mettre en place pour vos équipes.
Oui, chaque accueil est personnalisé et je suis sensible à votre question parce que c'est une vraie question de fond, ce qui oblige d'ailleurs nos équipes de professionnels dont je parlais tout à l'heure à avoir avec le même type d'animal, parfois un comportement adapté de manière différente parce que cela va dépendre si vous avez eu un ours qui a été victime, par exemple, d'un dresseur violent. Le temps, il ne faut pas à la fois que l'animal reste trop imprégné, ce qu'on appelle trop imprégné dans nos métiers, c'est qu'il soit trop proche de l'homme. Mais quand vous avez notamment des animaux, par exemple, qui ont été mis au dressage, il y a forcément une relation, contre leur gré bien sûr, mais il y a une relation forte à l'homme. Donc nous, notre objectif, c'est de faire en sorte que cette imprégnation se distende, que l'animal ait moins besoin de l'homme. Mais on sait aussi, c'est paradoxal, mais on sait aussi qu'il va parfois avoir besoin de plus d'attention parce qu'il a eu un passé compliqué. Je cite régulièrement les deux tigresses qui sont arrivées l'année dernière et que nous avons mis longtemps qui sont les victimes collatérales de la guerre en Ukraine et que nous avons mis du temps à pouvoir faire venir d'abord en Pologne puis ici à Château-Gontier-sur-Mayenne au refuge. Eh bien, elles servaient à des personnes peu scrupuleuses dans les rues de Kiev qui faisaient des photos avec. Alors faire des photos avec un grand fauve, on se dit que le danger aurait pu, les choses auraient pu déraper à n'importe quel moment. Donc oui, et ça répond à votre question, il faut des attentions très particulières et d'un tigre à un autre tigre, vous n'aurez pas la même approche.
Durant ces 50 années, il y a eu un grand nombre de personnalités à soutenir publiquement le refuge. C'est un soutien important pour vous.
Oui, c'est important. Nous allons d'ailleurs travailler sur la dynamique de ce comité d'honneur. Nous avons perdu la présidente Mylène de Mongeau, qui était évidemment une proche de la famille Hujdé. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on aimerait que les personnes qui sont impliquées dans le comité d'honneur le soient de façon assez régulière. C'est ce qu'on leur demandera de plus en plus pour justement provoquer de la visibilité. Nous en avons extrêmement besoin. Mais il y a eu des fidèles. Je pense évidemment à Michel Drucker et à Dany Saval, mais je pense aussi à une visite, alors que nous allons aborder une période des Jeux Olympiques. Je pense à une visite que nous avions eu le plaisir de faire avec Teddy Riner, par exemple. Quand des personnalités visitent ce lieu, il y a souvent une émotion. Lors du dernier VNB Fest, nous avions la chanteuse Pomme qui est venue et qui a posé énormément de questions. On voit son attachement à l'environnement, mais qui était totalement bluffé. Il y a un autre grand monsieur de la chanson française qui, lui, n'est pas dans le comité d'honneur, ou en tout cas pas pour l'instant, qui s'appelle Florent Marchais, qui est vraiment un artiste que je conseille à tout le monde de suivre. Et Florent nous a fait la gentillesse, alors qu'il venait au carré se produire, de prendre du temps et il a été impressionné, je crois que je ne trahis pas son sentiment, il a été impressionné de voir qu'il y avait d'abord ici autant d'espèces, autant de complicité entre l'homme et l'animal. Ces personnalités ont eu leur importance au fil du temps, ont toutes eu leur rôle à jouer.
Leur rôle à jouer, notamment en novembre dernier, alors que vous lanciez l'opération 1 euro par un Mayennais suite à des difficultés importantes. Plus de 70 000 euros ont été récoltés. On a pu voir un grand mouvement de générosité. Aujourd'hui, quelle est la situation du refuge ?
Alors la situation à aujourd'hui, en avril 2024, est toujours malheureusement extrêmement tendue, puisque la raison qui nous avait poussé à lancer cette idée folle avec ses maladresses, parce que c'était une première, on a monté l'opération en un peu moins d'un mois, ce qui est très très peu, mais on a eu la chance d'avoir le soutien de personnes comme les boulangers de la Mayenne, par exemple. Les médias ont extrêmement bien relayé les choses, mais chacun a eu son rôle, et puisque pour la première fois dans l'histoire de ce refuge, eh bien le montant des énergies, que ce soit évidemment l'électricité en premier lieu, mais aussi le carburant de nos véhicules qui servent sur les 23 hectares du parc, le chauffage, quel que soit le moyen, chaudière bois, enfin bref, tout avait explosé. Et pour la première fois dans notre histoire, nous avons dépassé le budget alimentaire de nos 1000 pensionnaires. Personne n'aurait jamais imaginé ça un jour. Cela mis à la suite d'un contexte économique difficile, eh bien nous a obligé à lancer le 1 € par Mayennais, et à aujourd'hui, puisqu'on est au printemps 2024, on peut même affiner la somme. On est effectivement en décembre, quand nous avons clos l'opération qui avait commencé à la mi-novembre, nous étions à peu près à 70 000 €. Mais des dons ont continué à arriver au mois de janvier, ce qui fait que nous avons quasiment mobilisé 100 000 €. Ce qui a été, quand je dis émouvant, le terme n'est pas exagéré, parce que on a eu des personnes qui se sont déplacées parfois d'assez loin et dont on voyait bien la modestie de la situation et qui nous disaient « je fais ce que je peux, mais je vous ai apporté 20 €. » Ils ont montré le chemin de la solidarité. Ça n'est qu'un secret de Polichinelle. Nous contactons aussi, bien évidemment, depuis plusieurs mois, les collectivités, dont le département de la Mayenne, la région des Pays de la Loire. Et nous attendons qu'il y ait aussi un peu plus d'argent public à venir renforcer notre fonctionnement, parce que seuls, nous ne pourrons pas continuer à relever ces défis. Demain, nous attendent l'arrivée des animaux de cirque. C'était une loi que nous appelions de nos voeux, à laquelle nous avons participé au niveau de l'écriture. Donc voilà, si on veut continuer, si on veut respecter ce totem mayennais jusqu'au bout dans ses missions, on ne le fait pas pour nous, on le fait pour celles et ceux qui nous suivront, qui accueilleront demain d'autres animaux. Eh bien, il faut se mobiliser de manière forte, et on y croira jusqu'au bout.
On invite nos auditeurs à venir visiter le refuge de l'Arche. C'est un très bon moment, cette période de vacances scolaires, justement pour ça. C'est un premier soutien possible, après tout.
Oui, parce que ce que je n'ai pas dit au micro de l'autre radio, c'est qu'effectivement, 55% de notre capacité à investir provient des visiteurs. Donc c'est absolument énorme. Et je salue chaque fois que j'en ai l'occasion les familles, les visiteurs individuels, les classes, les groupes qui viennent nous rendre visite, parce que à eux seuls, ils représentent plus de la moitié de notre chiffre d'affaires, ce qui est absolument impressionnant. Si vous comparez avec d'autres structures ouvertes au public, il est rare d'être à ce niveau-là. Et puis évidemment, quand on invite effectivement à venir découvrir et redécouvrir, parce que c'est un lieu qui est en perpétuelle mutation, malgré nos moyens qui restent modestes, on essaie de tout miser sur le bien-être animal. Et c'est vrai qu'en cela, nous avons aussi des fondations. Je pense à la fondation Brigitte Bardot, à 30 millions d'amis, qui sont des partenaires heureusement fidèles, qui à la fois s'intéressent de manière très régulière à nos travaux, à nos accueils. Et puis, comme je ne saurais terminer cet entretien sans livrer une information quasi exclusive aux auditrices et auditeurs de l'autre radio, eh bien je vous donne rendez-vous, puisqu'au mois de, si tout se passe bien, au mois de juin, nous allons accueillir deux panthères qui, pour une panthère noire tachetée, ce qui est assez rare, vient également d'Ukraine. Donc voilà, ça sera encore un temps fort qu'on a vraiment envie de partager avec le public et notre proche public, c'est-à-dire celui de la Mayenne et des Pays de la Loire.
Merci Jean-Marie Mulon, merci pour cet échange et ce retour sur le passé et le présent du Refuge de l'Arche. Merci.
Merci à vous.
Et on continue l'agité en musique pour quelques minutes. Avant de se pencher sur l'actualité locale de Lucie, on écoute Stéphane qui nous chante « Ma chérie ».
Ses yeux, amour. Mais c'est pas pour elle que je fonds, puisqu'au fond, elle n'aime pas les blondes. Mais c'est pas pour elle que je pars, à mon égard, son cœur déclare. Elle n'en a pas très envie, alors je reste avec toi, ma chérie. Alors je
focus sur toi. À moi, je la laisse là, c'est mort. Mais c'est pas pour elle que je fonds.
C'était cool, mais toi et moi, ça va pas le faire. En tout cas, prends soin de toi.
Commence par parler emploi aujourd'hui dans les brèves, chers auditeurs. C'est à Laval que 6 personnes ont été recrutées après avoir participé à un restaurant éphémère le mois dernier. Fin mars, l'Union des métiers et des industries de l'hôtellerie de la Mayenne, ou UMI 53, avait organisé un recrutement un peu spécial, puisque 14 candidats répartis entre la cuisine et la salle ont servi leurs potentiels employeurs avec l'accompagnement de professionnels aguerris dans un restaurant éphémère, donc. Et un mois plus tard, c'est 6 candidats qui ont été recrutés et 3 autres qui sont en attente de réponse suite à des entretiens. Une autre initiative pour favoriser l'emploi, portée elle aussi par l'agglomération de Laval, à Parnay-sur-Roc plus précisément, c'est le chantier d'avenir et le chantier tremplin. L'idée est de proposer une solution d'emploi aux personnes qui en sont le plus éloignées pour plein de raisons, par exemple un faible niveau de formation, un manque de confiance, peu ou pas d'expérience professionnelle, etc. Et ça passe par un CDD de 20 à 28 heures sur une période de 4 à 12 mois. Et en toute logique, le recrutement se fait sur la motivation et non sur les compétences. Ben oui, un des objectifs est que ce contrat débouche sur un emploi ou une formation qualifiante. Concrètement, les salariés sont encadrés pour réaliser des travaux d'entretien du patrimoine bâti et de peinture. À Parnay-sur-Roc, c'est la rénovation du mur du cimetière qui sert de bel exemple. Les travaux ont commencé en 2022 en plusieurs phases et la plus récente s'est terminée le 12 avril avec la rénovation du mur du calvaire de l'église. En 2023, 49 personnes ont bénéficié d'un contrat et 19 étaient toujours en poste au 31 décembre. Parmi les 30 sorties, 19 étaient en emploi à l'issue de leur contrat. À noter que les financements se répartissent entre Laval Agglomération et le Fonds Social Européen pour le chantier d'avenir, ou bien entre l'État, Laval Agglomération et le Conseil départemental pour le chantier tremplin, ce qui permet à la commune de rester dans un budget de 6 200 € pour 2 chantiers, tout en favorisant l'insertion professionnelle. Un dernier petit point citoyen, la Convention citoyenne pour les quartiers populaires à Laval toujours a enfin été lancée vendredi 19 avril et 41 personnes sur 52 ont répondu à l'appel. Cette convention est née des violences urbaines de juin 2023 et de l'observation qu'il ne faut pas se désintéresser des habitants des quartiers et détourner le regard de leur réalité, mais plutôt chercher à mieux se comprendre et déconstruire un peu les préjugés. Prochaine session les 31 mai et 1er juin avec l'intervention des parties prenantes. Reste à savoir si tous les participants et participantes reviendront. Allez, place à un rendez-vous avant de vous parler du soleil. Ce week-end à Olivet, vous pourrez aller écouter du jazz et swing manouche au Café du Garage avec les gars d'en bas. De la sincérité dans leurs textes, des sujets comme la beauté des choses, sans oublier une touche d'humour. Pour profiter de tout ça, rendez-vous vendredi 26 avril à 20h30 au Café du Garage à Olivet. En plus, c'est gratuit avec participation libre au chapeau. Et dans le ciel aujourd'hui, un peu de nuages à l'ouest du département qui vont faire face au soleil à l'est. Des températures allant de 10 à 12 degrés cet après-midi avant de descendre tout doucement à 9-10 degrés ce soir et entre 4 et 7 degrés cette nuit. Décidément, le plaid n'est pas prêt de nous quitter, je crois, mais le soleil gagne du terrain et nous fera le plaisir d'éclairer tout le territoire demain matin malgré la brume et les bancs de brouillard qui vont l'accompagner le matin, comme à Saint-Germain, le Guillaume ou Cran par exemple. Il fera entre 6 et 8 degrés pour commencer la journée et on va aller à 11-12 degrés l'après-midi avec quelques nuages par contre pour encore descendre progressivement à 3 ou 5 degrés dans la nuit, mais avec un beau ciel bien dégagé par contre. Dommage qu'il fasse si frais, autrement Arnaud aurait déjà sorti ses toiles pour essayer de peindre un peu avec la belle lumière qu'on va avoir.
Merci Lucie. Et pour continuer cette émission, Lucie, tu nous proposes des rendez-vous pour ce mois de mai qui arrive.
Et oui, les castro-gontéens et castro-gontéennes connaissent peut-être déjà, je vous parle des beaux dimanches du kiosque. Ce sont des rendez-vous qui ont lieu tous les dimanches du mois de mai au kiosque de Château-Gontier et promenade de la Résistance. Un beau moment, parfois une belle surprise quand on découvre un peu justement par surprise ce qu'il se passe. De quoi profiter autrement d'un moment en musique avec des inconnus qui vont peut-être devenir des interlocuteurs, pourquoi pas. J'ai envie de dire des inconnus ou des interlocuteurs connus. Enfin bon, je m'égare. Je laisse Janil et Guy de Maisoncelle de l'association La Verdine nous en parler avec à leur côté Nolwenn Guérin, maire déléguée d'Azé.
Janil de Maisoncelle, administratrice de l'association La Verdine et chargée de la programmation avec Guy et la mairie.
Je suis Guy de Maisoncelle, enchanté d'apporter mon modeste soutien dans la programmation.
L'association La Verdine, c'est eux qui organisent depuis 22 ans les Beaux Dimanches du kiosque. Mais alors c'est quoi l'identité des Beaux Dimanches ?
Moi je suis un chanteur d'expression française, alors je suis sensible à tout ce qui chante français. La chanson française, c'est quand même notre souci, ça, partager la chanson française.
De faire découvrir des talents, et c'est assez amusant parce qu'à la fin, tous ceux qui amènent des CD... Les gens se précipitent et achètent. Ensuite, on nous en parle en nous disant « Oh là là, j'arrête pas d'écouter le CD ». Et c'est fabuleux.
Sans oublier l'importance du kiosque.
Le but, c'est ça, c'est que les gens découvrent l'espace qui leur est proposé là. C'est tellement beau.
Et quand il fait moche alors, comment est-ce que ça se passe ?
Les jours où il fait mauvais temps, les spectacles se font dans la salle des fêtes, qui se trouve à proximité. Elle est
à toi, cette D'année en année, on avait de plus en plus de monde. Et l'an dernier, il y avait beaucoup de monde, les gens étaient ravis. En plus, les quatre dimanches, on les a passés à l'extérieur. Il faisait très beau. En fait, les gens viennent en famille et passent une heure et demie agréable. Il y a aussi les gens qui n'avaient pas prévu, qui viennent se balader, qui découvrent et qui restent. Ce sont des beaux moments qu'on partage ensemble, quoi.
Jetons un petit coup d'œil sur les artistes qu'on pourra y voir.
Je peux déjà vous parler des quatre dimanches, avec une première partie le 5 mai, assurée par un chanteur qui s'appelle Alain Brise-Montier, qui chante essentiellement du Brassens. Et puis en deuxième partie, Lady Bug, qui chante du Brassens, et c'est un spectacle à elle toute seule. Le deuxième dimanche, le 12 mai, sera assuré par Anne David, qui chante des chansons à elle essentiellement. Et puis en deuxième partie, il y a un groupe qui s'appelle La Croqueuse et qui va être assez connu sur la région de la Mayenne.
La Croqueuse, on sait que c'est un groupe mayennais. Là, on s'est dit, ça serait bien quand même qu'ils viennent faire valoir les artistes mayennais, les mettre en avant.
Dimanche 19 mai, le troisième dimanche, donc, nous aurons deux groupes, Agora Sonorien, et puis en deuxième partie, La Blanche Épine. Alors là, on sera dans un registre plus folk song. Ça va danser, là. Les gens seront invités à se donner la main. Et puis le quatrième dimanche, c'est une chanteuse qui est venue l'année dernière, une chanteuse bretonne, mais qui cette année revient pour donner la réplique à un clown. C'est le groupe Clarisse et Fulpic. Ce spectacle-là est surtout à l'adresse des enfants, et puis des grandes personnes en mal d'enfance peut-être. Oui.
Et comment est-ce que vous créez la programmation justement ?
Au feeling, moi je pense à des gens déjà pour l'année prochaine. Une chanteuse, ça fait plusieurs années que j'aimerais bien voir dans la programmation, qui chante magnifiquement Barbara. Voilà, ça se fait comme ça, c'est des coups de cœur qu'on a.
On en a plein la tête des coups de cœur. Et en fait, c'est pas facile parce que comme on a envie quand même de garder deux dimanches, un pour la danse et un pour les enfants, donc il reste que deux dimanches. Et c'est vrai qu'on a une liste d'attente.
Moi, c'est donc Nolwenn Guérin, je suis maire déléguée d'Azé et je suis adjointe à Château-Gontier à la culture. Depuis le début, en fait, c'est l'association La Verdine qui nous fait une programmation. Donc, au départ, c'était une association qu'on soutenait par l'intermédiaire d'une subvention et ils faisaient la programmation. Maintenant, ensemble, on a une convention et on leur demande de nous proposer une programmation ouverte à tous avec plusieurs types musicaux, mais bien sûr autour de la chanson française. Le public cible étant sur un des dimanches les enfants, sur un autre les danseurs. Et donc, on sait qu'ils ont un portefeuille d'artistes impressionnant que nous, on n'a pas. Donc, en fait, on a toujours une programmation de qualité qui plaît, donc on continue à garder ce partenariat qui fonctionne bien.
C'est un partenariat qui dure depuis 22 ans, les débuts du festival. Et la mairie, elle y trouve aussi son compte, bien sûr, pour faire vivre le kiosque, par exemple.
Faire vivre le kiosque, c'est faire découvrir les promenades, parce qu'en plus du kiosque, c'est vrai qu'on est sur les promenades qui sont très arborées, mais c'est aussi une façon pour nous de lancer la saison estivale. En fait, c'est les premières manifestations avant la chalibot. En fait, c'est une façon pour nous de démarrer la saison.
C'est l'occasion d'inviter les habitants et habitantes à redécouvrir cet espace, le kiosque et sa promenade, mais pas seulement.
Surtout les inviter à venir, tout simplement, et à offrir un spectacle, des spectacles gratuits. Et c'est vrai que cette gratuité permet à n'importe qui de venir et peut-être à des gens qui n'ont pas forcément toujours les moyens de s'offrir un spectacle. Et puis ça permet aux personnes âgées, par exemple je pense aux Zombelles, qui se déplacent en groupe pour venir écouter. Donc c'est aussi quelque chose d'intergénérationnel. Les gens se baladent, ils s'arrêtent, les gens viennent exprès. Donc on a un peu tout type de public et c'est aussi ça qu'on veut garder. Te souviens-tu ? Te souviens-tu ?
Vous écoutez la JT du local sur l'autre radio 107.9 à Château-Gontier et 101.7 à Laval. Alors Donatien nous aura emmenés partout aujourd'hui. Nouvelle destination. Donatien, on t'écoute, c'est à toi.
Œil d'aigle, jambes de cigogne, moustache de chat, dents de loup. Perce-bedaine et casse-trogne sont leurs sobriquets les plus doux. De gloire leur âme est ivrogne, perce-bedaine et casse-trogne, dans tous les endroits où l'on cogne, ils se donnent des rendez-vous. Perce-bedaine et casse-trogne sont leurs sobriquets les plus doux. Voici les cadets de Gascogne. Ainsi, Cyrano faisant deux pas vers le comte de Guiche, présente sa compagnie, la compagnie des cadets de Gascogne. Cyrano de Bergerac est un personnage haut en couleur, à la fois poète et bagarreur. Qu'il pleuve, qu'il vente ou que le soleil tape sur le crâne, le caractère de ce Gascon est bien trempé. Bien trempé aussi les vêtements de Donatien qui, cette année, a décidé de se rendre à l'Astarac. Comment l'Astarac? Notre poète rêveur s'est inscrit à une émission de télé-réalité. Donatien s'expose sous les projecteurs et devant les caméras. Donatien accepte le jeu des médias. Donatien se plie à la sélection du jury, à l'élimination. Mais non. Il ne s'agit pas d'une émission de télévision. L'Astarac est une région naturelle située sur les départements actuels du Gers et des Hautes-Pyrénées, une ancienne région de la province de Gascogne, si chère à Cyrano. Ici, pas de compétition. Chaque pas est un enchantement sur le chemin de grande randonnée que Donatien emprunte pour rejoindre les Pyrénées. S'il lui arrive de croiser d'autres voyageurs, pas de course. Le but n'est pas d'arriver le premier. La nature, généreuse et grandiose, offre à chacun sa récompense. C'est un lac tranquille au creux d'un vallon. C'est un chemin rocailleux mais ombragé, bordé de noisetiers qui fournissent gratuitement de l'ombre aux marcheurs. Ce sont les brumes qui tissent des écharpes autour des fûts de chênes et de frênes, ainsi qu'autour des gigantesques peupliers dont la cime chatouille les premiers rayons du soleil. Pas à pas, Donatien parcourt pendant des heures les terres gasconnes. Le bruit des souliers sur les cailloux se fait feutrer sur la terre lustrée par des siècles de passage. Donatien est de passage, mais le rythme lent de sa marche allonge le temps et lui donne le sentiment de vivre pleinement heureux. Ce soir, il trouvera un abri accueillant pour le bivouac et, comme il a emporté dans son sac un exemplaire assez léger de Cyrano de Bergerac, il relira les vers du poète et s'endormira avec une pensée pour celle qui fait battre son cœur au rythme de ses pas.
T'as le sol, la mujer, cuando llora, las golondrinas y las malas señoras, abrir balcones y abrir las ventanas, y las muchachas en abril. Me gusta el vino tanto como las flores y los amantes, pero no los señores. Me encanta ser amiga de los ladrones y las canciones en francés. No soy de aquí ni soy de allá. No tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá. No tengo edad ni por venir. Y ser feliz es mi color de identidad. Me gusta estar tirada siempre en la arena o en bicicleta perseguir a Manuela con todo el tiempo para ver las estrellas con la María en el trigal. No soy de aquí ni soy de allá. No tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad. No soy de aquí ni soy de allá. No tengo edad ni por venir y ser feliz es mi color de identidad.
Le rapport avec la musique, c'est que j'ai écrit cette chronique-là après être allé, après avoir croisé un randonneur qui a fait tout le GR des Pyrénées là, et puis tout, qui a remonté toute la France à pied. Et il s'est fait tatouer sur le mollet, il s'est fait tatouer « No soy de aquí, ni soy de allá ». Je ne suis pas d'ici et je ne suis pas d'ailleurs.
C'était Chabela Vargas et comme le dit si bien Donatien, « No soy de aquí, no soy de allá ». L'agité du local, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Jean-Marie Mulon d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à Donatien et merci à toi Lucie. Les émissions continuent sur les ondes de l'autre radio et aujourd'hui on commence la soirée avec Au Catering.
Et ça commence à 19h, l'émission a été enregistrée en public et alors ce mois-ci, ils font étape dans le bar La Fosse qui est un lieu de concert et de découverte musicale. Et après tout ça... comme tout ça ressemble bien à l'équipe de l'émission ce mois-ci. Ils ont eu à leur micro Guillaume du groupe Lavallois Club Mutant. Évidemment, ça nous promet une très bonne soirée en leur compagnie.
À 21h, si l'on fait des découvertes, ça sera plutôt du style musical, d'un autre style musical, Lucie.
Et oui, puisque c'est l'émission Frères de chaussures animée par Fatshu qui prend la suite, qui nous parle bien sûr de rap français.
Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission de l'Agité du Local. Nous serons avec l'équipe artistique de la comédie musicale Dans tes rêves qui sera sur la scène du théâtre ce vendredi 26 avril. D'ici là, pardon, dansons sous la pluie ou chantons sous la pluie. Ça donnerait le sourire aux gens, n'est-ce pas? Une idée comme ça pour faire le bien.
Mimi, tu crois que c'est fini?
Quand elle dit au revoir, bah c'est que c'est terminé.